Depuis le 8 juin se tient le 34e marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Paris. L'invité d'honneur en est le Mexique. Pour Sur les Docks, nos invités d'honneur sont aujourd'hui les femmes poètes. Stéphane Bonnefoy a convié Marie-Étienne, Marilyn Hacker, Sophie Loiseau, Camille Loivier et Valérie Rouzeau. Des années avant, je ne doute pas qu'il y aurait eu aussi celle qui a écrit « Je voulais te parler dans une langue nouvelle, je t'apprendrai une langue que personne ne sait, mes voix, le foin mûr attend que je le coupe, et le blé qui fleurit a besoin de mes bras, il faudra porter de l'eau aux semailles, et déjà le raisin pense aux vendanges. Lève-toi donc, mais lève-toi, mamie. » Cette femme, Marcel Delpastre, était femme, poète et aussi paysanne.
Cet essai sur le genre « Sept ans ma geste, mon retournement », celui d'Artémis, d'Orphée, elle, il vire, se retournant l'une l'épieur, l'autre la spectre. Que le féminin recouvre, visible et légitime dans la langue, l'usage de ses reines, son troupeau, pour qu'à tout le moins ma langue soit sauve.
Être femme et poète aujourd'hui. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Guillaume Baldi.
Les mœurs modernes ont permis aux femmes de devenir des écrivains dont les vers figurent dans les anthologies. Et si vous êtes poète, madame, mademoiselle, personne ne s'en scandalise à présent.
Edmé de La Rochefoucauld, 1960.
Avant 1900, il eût été difficile de parler de poésie féminine. Le sujet, même étendu sur 700 ans, se serait restreint à quelques noms. Marie de France, auteure de fables et de lait, et dont on sait seulement qu'elle vivait à la cour d'Angleterre au XIIe siècle. Christine de Pizan, fille de l'astrologue de Charles V, qui gagnait sa vie avec ses livres. Marguerite de Navarre, la Marguerite des Marguerites, sœur de François Ier. Louise Labbé, Bernadette du Guillet, de l'école de Lyon. Lélé Jacques, Marceline Desbords de Valmore. Seules ces quelques muses du passé restent célèbres. Vous entretenir les femmes poètes, apparues avec ce siècle, n'est pas plus aisé. C'est vers Anna de Noailles que nous pouvons nous tourner pour répondre sans hésiter que nous aussi, nous possédons une femme de génie dans l'ordre poétique. Grâce à son exemple, peut-être à son courage, des femmes sont devenues poètes.
Oui, toute évidence, il y a un énorme travail à faire sur cette question de ces femmes dont on dit qu'elles seraient peut-être en poésie une par siècle, on en trouve vaguement. Et qu'est-ce qu'elles ont représenté, ces femmes, pour vous, dans votre formation et aujourd'hui encore, Camille Loivier ?
Elles sont essentielles. Moi, j'avais besoin de savoir qu'il y avait des femmes avant moi. Alors, pas forcément pour m'en inspirer ou pour suivre leur façon d'écrire, hein, parce que finalement, quand c'est très ancien, c'est un peu difficile de suivre des femmes du Moyen-Âge. Mais en tout cas, de savoir qu'elles étaient là, mais ça me permettait de m'inscrire dans une famille où il n'y a pas que des pères ou des oncles. Hein. Souvent, quand on parle d'un poète, on dit « voilà, il a lu un tel », c'est toujours des hommes. Je n'écris pas que pour des hommes, je n'écris pas que pour des lecteurs, j'écris aussi pour des femmes, parce que voilà, j'en suis une, et pour des sœurs, pour des mères, des tantes, hein, comme on dit, des grands-mères. J'ai besoin de grand-mères, voilà. J'ai besoin d'une famille. Et ça, c'était très important. Et elles m'ont appris aussi leur sensibilité, souvent, je m'en sentais très proche. Leur façon d'écrire, de voir les choses, d'avoir un regard particulier sur la vie, des événements. Je me dis, ah oui, c'est ça que je recherche moi aussi. Donc ce n'est pas qu'une question de langue. Et avec, je ne sais pas, Virginia Woolf ou Catherine Mansfield, voilà. Bon, ça c'est vraiment des regards qui me sont très chers. Je relis tout le temps. Je relis tout le temps parce que elles ont une sensibilité que je trouve extrêmement forte, originale et... Peu importe prose ou poésie, c'est vraiment un sens de l'existence, une place dans le monde, une façon de percevoir les choses. Hein. On dit le puéril revers des choses. Mais je trouve ça exactement ça, parce que puéril, voilà, c'est ce qu'on dit des femmes naïves, etc. Mais qu'est-ce que c'est la naïveté, finalement ? C'est quelque chose qui est de l'ordre du sublime, on l'oublie. Hein. On sourit du naïf parce que justement on n'est plus capable, comme le naïf, d'apprécier une chose simple, une chose vraie. Et je trouve que dans le regard des femmes, du fait peut-être qu'elles sont extérieures quand même à la société des hommes, on leur met une petite place dans un coin, mais toujours dans un petit coin, elles ont un regard voilà, peut-être plus juste sur les choses.
Les femmes poètes n'appartiennent pas à l'histoire de la poésie. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais je crois que le facteur
Marie-Étienne.
De l'enseignement est très important. C'est-à-dire que ça commence comme ça. Si on va à l'école et qu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans le programme, je ne vois pas comment elles peuvent exister. Donc il y a un conservatisme dans l'éducation nationale à ce niveau-là, pas forcément au niveau des enseignants, encore que, mais au moins à ce niveau-là qui est invraisemblable, quoi, invraisemblable. Donc il faudrait réécrire ça, il faudrait repenser ça, et que ce soit pas que les hommes qui le repensent, mais que les femmes aussi fassent partie de soit de commissions, soit de mouvements, soit disent leurs mots à ce sujet et refassent l'histoire. Il faudrait refaire l'histoire de la littérature. Et pas seulement en y intégrant des femmes, mais aussi en revoyant un certain nombre de points de vue sur ce qui est revendiqué comme un patrimoine ou un matrimoine, je sais pas, disons les deux mots, il faudrait revoir tout ça.
J'ai l'impression qu'on ne se tire pas dans les pattes, peut-être est-ce une illusion, mais qu'on ne va pas se dresser l'une contre l'autre et qu'on va peut-être avoir quand même du respect pour chacune, peut-être parce qu'on sait que c'est difficile malgré tout de se faire entendre, de se faire respecter. Ça reste quand même difficile, même si je ne peux pas dire que j'ai eu moi des difficultés, mais je le sens ça, on le sent. Il y a une sorte de, c'est ça, de fil ténu, mais de même qu'on sent aussi quand on lit les femmes poètes ou quand on lit des femmes écrivains, enfin, après le terme poésie, enfin, voilà, au sens large, la littérature. Moi, quand je lis une femme poète ou écrivain, je sens qu'elle me parle. Voilà, je sens ça. Alors, est-ce qu'elle parle aux hommes? Certainement. Hein, mais je me sens peut-être davantage tirée par la manche ou je ne sais pas, ça me touche en tout cas.
Et précisément, Sophie Loiseau, comment est-ce que vous qualifieriez-vous la place des femmes aujourd'hui dans la poésie contemporaine?
Je crois qu'elle est prépondérante, elle est incontournable, elle est extrêmement importante. Et ça, tout le monde le reconnaît. Tous les hommes, les premiers, quand ils parlent de la poésie des femmes, disent justement que les femmes sont probablement l'écriture la plus neuve là, qui est en train effectivement d'advenir depuis déjà, je dirais, la fin des années 80, 90, 2000, mais même avant, je veux dire, avec Marie-Claire Bancard, Marie-Étienne, Esther Tellerman, Martine Broda, Anne-Marie Albiac, voilà, des femmes, mes aînées, qui, voilà, dont je me réclame, qui sont des références pour moi et pour celles de ma génération juste après.
Écrivant, je m'endors et je rêve. Rêve que quelqu'un gémit et pleure, pleure et gémit, le visage dans un livre, et que je vais le relever, le consoler, la consoler. C'est une enfant. Ne pleure pas surtout, ne pleure pas, je t'en supplie. La petite fille relève la tête et je commence à boire ses larmes qui surgissent, non pas d'elle, mais du livre. Et plus précisément d'un des mots de la page dessiné comme un œil. C'est ce que je constate avec effarement. Je me dis, la douleur est passée du visage au papier, du désolé au texte. La douleur d'autrefois est partie dans les mots. J'ai fait partie de cette revue Action Poétique qui, à l'époque, était remarquable. Disons que c'était la revue avec celle de Solers qui était les plus en
vue et en pointe.
Marie-Étienne.
On était peu nombreuses comme femmes. On était peut-être 6 de ma génération à peu près. Mais on était très visibles en même temps. On parlait de nous. On nous accueillait dans les. On nous publiait sans trop de mal. Certaines théorisées, dont Martine Broda, elle écrivait des textes théoriques dans la revue Action Poétique, qui étaient remarquables. Il y avait aussi Geneviève Clancy, mais qui était plus axée sur le militantisme. Il y avait Agnès Rousier, dont on reparle aussi. Vous voyez, je me souviens d'autres femmes. Donc on était quand même, on existait. Et on ne peut pas dire qu'on était minimisé, oublié, qu'on avait une difficulté à publier. Non, pas du tout. Mais en même temps, rester des femmes. Je veux dire, aux yeux des hommes, quoi. C'est-à-dire peut-être qu'on n'était pas tout à fait. On était appréciés en tant que femmes. Moi, et en tant qu'auteur, mais. D'une manière qui, avec le recul, ne me satisfait pas, quoi. Comme en plus, je crois qu'on intéressait d'autant plus les hommes qu'on était jeunes, et souvent jolis, et que voilà, maintenant, il y a d'autres femmes jeunes et jolies qui nous ont remplacées, à tous les points de vue. On existe encore, heureusement. Enfin, je crois que la. L'important est de durer. Et de durer pas seulement quand on est en vie, mais après. Et ça, pour une femme, c'est peut-être plus difficile que pour un homme.
En France, la femme ne vote que depuis 1946. En Angleterre en 18, aux États-Unis en 1920, la France est en retard. Mais ce retard se rattrape petit à petit, ça se voit. Mon éditeur Louis Dubourg a publié Par revoir les poèmes pour mon père. Louis, il a réellement misé sur les femmes et il a dit quelque chose d'important. Il a dit le renouveau poétique se fera chez les femmes. Et il a dit ce que Rimbaud avait dit, je ne sais plus quand, Rimbaud était. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un adolescent, c'est-à-dire la femme sera poète elle aussi, quand sera enfin aboli son infini servage, elle trouvera de l'inconnu. Je vous cite de mémoire, hein. Mais c'est ça qu'il a dit. Donc Rimbaud l'a vu, Rimbaud quand même. Après, il y a eu de gros machos, hein. Il y en a toujours eu. Ils se placent d'abord, en plus ils ont le culot de s'auto-publier, donc c'est un truc qui me choque beaucoup, parce que je trouve que c'est un manque d'élégance absolue. On publie les autres, on publie pas. Moi, si j'avais une maison d'édition, je publierais pas mes poèmes.
Malgré la manière dont les hommes se combattent entre eux, ils ont en même temps des pratiques sociales qui font qu'ils sont capables aussi de, par exemple, de reconnaître une filiation, de dire « moi j'admire, pour rester dans le domaine de la poésie, tel poète qui a 10 ou 20 ans de plus que moi, ou 30 ans, je soutiens, je m'associe à tel autre pour monter tel journal, etc. » Les femmes n'ont pas l'habitude de ça, elles ne le font pas. Elles sont isolées les unes par rapport aux autres. Alors c'est un peu de leur faute, je crois. Elles savent pas s'associer, elles ne savent pas. Et puis elles ne savent pas s'associer. Elles ont envie de plaire aux hommes, donc elles ont plutôt affaire aux hommes. Les poètes en particulier, les femmes poètes en particulier, ont moins l'habitude de théoriser. Et quand elles expriment quelque chose du féminin ou qui s'apparenterait à du féminisme dans leurs écrits, elles sont isolées, elles sont dispersées, elles sont pas regroupées, non pas sous la bannière du féminisme, parce que ça, je trouve que c'est déjà quelque chose, mais c'est pas suffisant en art. Je veux dire, en art, il faut élaborer des théories et se regrouper en fonction d'une esthétique choisie par rapport à une autre, ce que font les hommes et pas les femmes. Et c'est pour ça que c'est pas visible. Les femmes font pas ça, elles sont pas l'habitude, quoi, de faire des manifestes, de de dire nous on pense ça, nous on veut ça, mais littérairement.
Et il est vrai que quand même depuis presque toujours, c'est les vieux mecs blancs, je précise blancs, hein, les vieux mecs blancs qui décident de tout.
Valérie Rousseau.
Vieux, en général, ils ont entre 75 et 100 ans. Et bon, j'exagère un peu, mais à peine. Hein. Non, j'exagère pas assez, en fait. Et les femmes, parfois, elles se casent parce qu'elles sont la nana de l'un d'eux. Alors, il les place. Mais il les place pour son intérêt, ou leur intérêt. Parfois, elles se bagarrent. Parfois, elles ont la chance, comme j'ai eu avec André, d'être... André Velter m'a sincèrement aimé ma poésie et m'a aidée. Je lui dois ça. Mais c'est rare. Et à côté de ça, vous avez des gens comme Yves Dimano chez Flammarion, qui est un éditeur de poésie, qui publie, je vous assure, regardez le catalogue, plein de femmes. Qui n'est pas du tout dans cette stratégie misogyne, qui est quelqu'un qui fait très très attention, qui est... où il y a ceux qui sont justes, qui équilibrent bien, comme Tarabuste, comme des gens comme ça, Jamel Mescache. Voilà. Mon premier éditeur, Guy Chambellan, disait, Valérie, ne m'en voulez pas, mais pour moi, vous êtes une poète. Pas un poète, parce que vous êtes de sexe féminin, donc ça, il l'entendait. Mais vous n'êtes pas une poétesse, parce que vos poèmes, c'est pas une poétesse, c'est pas Marceline Desbordes-Valmore, quoi, qui est insupportable. C'est chiant comme la pluie. Et c'est... Non, la pluie, j'aime bien. C'est ennuyeux comme c'est... Enfin, bon, bref. Il me dit, imaginez si je disais une peintresse. Un jour, tu entendis parler du prince consort. Était-ce un môme enrubanné, bien parfumé, sous le ciel mort? Et le prince qu'on rentre, une race de petits chiens? Quelque chose de frétillant? Un Yorkshire? Une anguille? Tu ne connaissais pas l'histoire de l'aviateur, la rose et le mouton, et le renard de rêve. Prince consort, le frangin qui a trouvé la fève. Mais la princesse consorte, sa robe en miettes, finie galette et peau de beurre, frangipane, la frangine, panne. Toujours le garçon vainqueur. On en revient au prince qu'on sort, ça nous ramène au prince qu'on rentre. La fève, le mal au ventre, la fièvre, l'intestine querelle.
Poétesse me convient mieux, c'est plus seul. La forme ou le format qui me convient.
Camille Loivier.
C'est qu'il y a peu de femmes poètes qui acceptent ce qualificatif, cette façon de dire, mais ce mot existe. Je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas l'employer. Mais je ne suis pas contre poète non plus.
Mais évidemment, les femmes n'ont pas envie d'être taxées de poètes femmes. Elles ont envie d'être des poètes tout court.
Oui. C'est-à-dire que quand on dit poésie féminine, bien sûr, on se sépare avec les hommes et on a l'impression qu'elles ne peuvent pas atteindre au niveau des hommes qui ont, bien sûr, depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, occupé le terrain de la poésie. Mais en même temps, si elles n'utilisent pas ce terme de féminin, alors elles sont noyées au milieu des hommes, elles sont assimilées aux hommes et elles ne montrent pas ce qu'il y a de différent. Et je pense qu'il faut aussi affirmer cette féminité comme une différence, sans avoir honte. Pourquoi toujours avoir honte d'être une femme? Pourquoi le cacher? Pourquoi vouloir ressembler aux hommes? Est-ce que c'est une supériorité? Je ne crois pas. Je pense qu'être une femme est peut-être supérieure à être un homme, je n'en sais rien. Donc en tout cas, il n'y a pas de raison de vouloir noyer le poisson, se mêler. Peut-être dans l'idée de quelque chose d'universel ou de neutre, auquel je ne crois pas du tout.
Dans ce que j'écris, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de reprendre les mythes et de les revisiter. Je trouve qu'il faudrait peut-être pas commencer par là, mais ça me paraît urgent de repenser un certain nombre de notions, de notions et même plus que des notions, des mythes qui sont au fondement de notre pensée. Je mets à mort un mythe, celui de Bérénice, la femme abandonnée qui pleure et qui s'exile quand l'amant la délaisse pour occuper son trône à l'aise. Je mets à mort les mythes, ceux des femmes amoureuses, et j'en recherche d'autres. Il en existe peu ou pas dans notre périmètre où le penser n'est que petit quand il s'agit du féminin. Curieusement ou pas, c'est la littérature arabe qui fournit la conteuse des mille et une nuits. Grâce à elle, la conteuse, le désastre est stoppé, resté devant la porte, le bras levé mais statufié par l'invention renouvelée nuit après nuit, par le foisonnement, l'arborescence de la fable. Je mets à mort les mythes où une femme est enfermée dans le secret de la maison quand le mari s'embarque, tissant et dessissant le même pan d'étoffe pour éloigner les loups, où elle séduit pour mieux tomber, où elle combat pour mieux mourir, où une femme s'endort 1000 ans, perd sa chaussure dans de la cendre, se couvre de peau morte, épouse un avorton, un ogre, même un cochon, et ce aussi inverse, où elle coupe les cheveux pour enlever la force, où elle danse dans ses voiles pour détacher un cou. J'exècre ce qu'il offre, un visage féminin partagé entre asservissement et assouvissement. Moi, je pense que ce serait très intéressant, par exemple, de se re-raconter le mythe de Médée d'un point de vue qui n'est pas celui qui a cours, uniquement. On nous la présente comme uniquement comme la femme qui a tué ses enfants pour se venger de son mari et pour enlever ses enfants à son mari qui les adorait. Mais on oublie tout le contexte. Moi, j'ai relu le texte il n'y a pas longtemps. J'étais effarée de la manière dont son mari la traite une fois qu'il a trouvé une autre femme, qu'il la chasse carrément d'une manière complètement ignominieuse. Il veut lui enlever ses enfants. Il l'a fait... si ce n'est chassé, du moins invectivé par sa nouvelle épouse, qui veut prendre les enfants, enfin, c'est un truc hallucinant. Mais ça, est-ce qu'on le dit ? Je sais pas, moi, alors ça n'excuse pas le meurtre de ses enfants, évidemment, mais enfin, ça donne un contexte différent quand même. C'est pas une folle une folle meurtrière, c'est pas ça. Elle est devenue folle, peut-être, à cause de la manière dont elle était traitée, mais je sais pas. Mais il y aurait à réécrire ça, à le repenser. Et cela, je trouve que c'est à faire avec pratiquement tout. Toutes les histoires qui nous habitent, même si on ne le sait pas. Même si on n'a pas de culture, elles nous habitent quand même, parce qu'elles sont véhiculées par le cinéma, partout.
Elle est venue pour amuser mes frères et sœurs au début. Je pense que j'ai commencé à écrire pour eux. Puis j'ai toujours tout fait passer. Mais pas seulement... on ne peut pas parler de poésie, parce que c'est une gamine qui écrit. Mais j'écrivais à mes parents aussi, enfin, je veux dire, je mettais des petites lettres sous la porte de leur chambre pour leur dire un truc, parce que pour moi, la parole est beaucoup plus difficile que d'écrire. Donc c'est venu comme ça, en fait, pour des raisons complètement, on peut pas appeler ça des raisons littéraires, c'est pas comme justement des dames qui veulent une chambre absolument. Virginia Woolf, ça avait du sens, mais aujourd'hui, c'est un petit peu ridicule de dire... Enfin, je sais pas, moi je peux écrire sur un coin de table, mon bureau, j'en ai pas. J'ai un problème avec la bourgeoisie confortable. Alors, ce que peut-être, parce que je suis un peu critique vis-à-vis des collègues, je mets des guillemets à collègues, hein, bourgeoises, c'est que peut-être elles ont été plus enquiquinées que moi pour écrire leurs poèmes. Finalement, c'est peut-être elles qui ont eu le plus de difficultés. Qu'avec des parents, des petits artisans complètement autonomes qui gagnent pas leur vie, qui disent « vas-y, on n'a rien à perdre ». En fait, moi, je crois plutôt que je rapporterais plus ça à un truc de classe qu'à un problème de sexe. C'est-à-dire qu'on peut... Louise Labbé, ils avaient de l'argent. Hein, elle a écrit des poèmes merveilleux, sensuels, érotiques, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, c'est des gens qui ont du fric. Une paysanne qui avait autant de talent ne pouvait pas le faire. Là, on est bien d'accord. Mais le paysan, il ne pouvait pas non plus. J'écris là. Là, je trouve mon bordel, là. Et c'est parce que c'est là que je fais le mieux. Moi, j'écris debout, hein. Je n'écris pas assise. Mécanicienne en bleu parmi les digitales. Je ferai ça plus tard, pas comédienne, pas maîtresse, pas danseuse, même étoile. Pas voyageuse, représentante placière ou femme fatale. Boulangère, pâtissière, couturière, roturière, serveuse, bonne, notairesse, cuisinière, frigidaire, infirmière, laverie, lingère, même si légère. Pas comme commerçante, pas femme savante, misère. Et ni con, ni concierge, ni blonde, ni grande asperge, ni moseur, ni maman, ni nourrice agrégée, ni sœur nonne ou sainte mère, ni prostituée, fille à marier, mariée, divorcée, veuve, défunte, caissière, crémière, banquière, chameau, ni dromadaire, pas chauffeuse de taxi, je réparerai, ferai, que ça roule, je ferai, sous l'azur déjanté, dans le rouge des coccinelles coquelicots vibrants, évaporés au bord des routes, mécanicienne.
Dans mon écriture, je ne vais pas avoir des poèmes qui sont particulièrement féminins, ou quelques-uns peut-être, oui, mais qui vont revendiquer vraiment, c'est pas un thème où je vais revendiquer cette féminité au long cours, non, mais c'est toujours là, comme une part d'ombre, une part qui n'est pas encore finalement résolue, qui appelle un questionnement. Et donc je m'interroge justement au féminin des mots, des noms. J'essaie d'utiliser ces termes au féminin. Enfin, par exemple, le « on hein, », le « on » qu'on utilise beaucoup en poésie, qui peut sembler justement un neutre. Mais ce « on », justement, on peut le mettre au féminin. Et pourquoi pas « on est belle », est-ce qu'un lecteur ne pourrait pas se sentir « on est belle » lui aussi? Est-ce que ça le mettrait dans une situation de gêne? Et dans ce cas-là, pourquoi pas lui offrir cette possibilité de se découvrir « on est belle » ? Et je pense qu'il y a voilà, un rapport au féminin qui est là dans le rapport à la langue qu'on a depuis l'enfance, depuis qu'on apprend à écrire et à lire, et qu'on a voilà, accepté, et qui finalement ne sont pas si évidentes que cela. Pourquoi voilà, au pluriel, hein, c'est le masculin qui l'emporte. Ça, c'est vraiment une des premières règles de grammaire qu'on apprend au CP. Mais je sais pas, ça m'a toujours semblé quelque chose d'assez monstrueux, finalement.
C'est quoi cette histoire du masculin qui l'emporte sur le féminin? C'est quand même sidérant, hein, parce qu'avant de penser à réformer l'orthographe, faudrait peut-être penser à réformer la grammaire quand même. Et ça, personne n'en a vraiment parlé, hein, moi je dirais. Et puis tout simplement cette histoire de, d'ailleurs qui est en quatrième de couverture de la Family, où je dis, enfin grosso modo, la femme et le chien se promènent dans la forêt, enfin ils se promènent, c'est-à-dire que même le chien, je veux dire, l'emporte sur la femme en train de se promener, enfin c'est hallucinant quand même.
Sophie Loiseau.
En fait, ce que j'ai fait, c'est donc un travail de manipulation, de déplacement, et en fait j'ai décorseté, on va dire. C'est comme décorseter un corps de femme, j'ai un peu décorseté, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça s'est mis à respirer, on avait un autre point de vue, c'est-à-dire qu'au masculin, ça s'est neutralisé finalement, le masculin, hein. Il neige, il pleut, il fait beau, tout ça, et quand on mettait le féminin, on obtenait quelque chose d'autre, de beaucoup plus troublant. Bon, après, il fallait juste s'habituer, parce que si c'était quelque chose qui après passait dans l'usuel, dans la coutume, ce serait assourdi et puis ce serait neutralisé même ce féminin. Mais le fait de dire elle neige, elle y a, eh bien ça changeait la donne et on avait une attention autre, disons, sur la langue. Aken, regroupé en glomérules, trois aires de répartition du fantastique, le lit, la maison, la forêt, à lui seul un platane. Comment construit-elle sa singularité grammaticale? Comment face à une norme mâle de la langue? La langue la baigne, elle baigne ma fille. Ta moi et ma moi, comment cela aussi dans l'échange, quand je la désigne en disant « Toi c'est moi, c'est ta moi, à toi ».
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir touché un tabou quelque part, Sophie Loiseau, ou pas, en féminisant les mots, en essayant de donner peut-être à la femme une langue propre?
Il y a quelqu'un qui a quand même balancé cette chose incroyable de dire que Caudal, c'était... j'ai eu un article vraiment très pénible sur le fait que j'avais sodomisé la langue. Ben oui, on touche pas aux langues, à la langue. On touche pas à la langue. Enfin, à la langue dans sa structure, hein, je veux dire. Oui, j'ai vu que j'avais peut-être touché un tabou. Mais justement, moi, j'adore ça. Trouver du nouveau, défricher, aller de l'avant. J'adore ça quand les chemins sont effrayés. Et puis faire des expériences, encore une fois. Je pense que la poésie, c'est ça. C'est faire des expériences, tenter. C'est peut-être pas réussi, c'est peut-être... voilà, mais... C'est ça. On est dans un laboratoire, mais un laboratoire du vivant.
Est-ce qu'on n'est pas une minorité avec dans notre langue de poétesse? Est-ce que c'est pas une minorité par rapport à la langue majeure, hein, comme disait Deleuze? Est-ce que c'est pas ça, justement, cette étrangeté, cette différence que pourtant...
Camille Loivier.
Enfin, toutes ces femmes qui écrivent recherchent, comme les hommes d'ailleurs, à ne pas être dans la norme. Alors pourquoi le nier au moment où c'est là? Il y a une peur, effectivement, une peur du féminin, même par les femmes qui n'osent pas se revendiquer en tant que femmes. Et peut-être souvent les hommes sont plus ouverts, justement, à cette position féminine que les femmes. Hein, qui vraiment cultive cette société machisme, hein, qui finalement nous opprime depuis des siècles. Alors c'est vrai qu'on parle, on a l'impression que les femmes parlent de leur jeu, de leur moi, parce que justement jusqu'à peu de temps il était écrasé, mais les hommes poètes ne parlent que de leur jeu, de leur moi, mais ils ont l'impression qu'il est universel et partagé et collectif. Ben non, il ne l'est pas. Son moi est tellement grand qu'il recouvre le monde et on doit s'identifier à lui et doit englober les femmes le plus vite possible, justement. C'est comme un énorme ventre qui avale tout. Et son moi, il pense que ça va intéresser tout le monde. Il en est sûr, hein. C'est Woolf, hein, qui parle que les femmes sont un miroir grossissant des hommes. Donc quand ils rentrent chez eux, ils ont besoin de se regarder dans ce miroir pour reprendre confiance. Parce qu'entre hommes, finalement, il y a des concurrences. Et à la fin de la journée, ils sont un petit peu dégonflés. Donc finalement, voilà, ces femmes-là sont là juste pour faire un miroir pour que l'homme puisse redémarrer dans ce grand moi qui est lui, qui est à son image. C'est ce qu'on attend d'elles aussi, qu'elles se confessent. Hein, sur leurs sentiments, sur leur corps et leurs désirs. Ça intéresse les hommes, finalement. Ça les intéresse beaucoup. Donc ça, oui, cette petite ouverture, on leur offre. Être capable de travailler le langage, dans ce cas-là, elles sont véritablement en concurrence avec les hommes. Là, elles rentrent dans l'atelier avec eux. Elles sont aussi en train de raboter. Et ça les gêne, effectivement, de voir d'autres capables, hein, comme ça, éventuellement de prendre leur place, de faire mieux. Et ça, elles le savent déjà qu'elles font mieux. Et il le jaloux, c'est pour ça qu'il ferme la porte. Qu'est-ce que ce serait d'aimer, si ce n'était pas seulement la plénitude dans la présence, le monde qui apparaît, s'ouvre, se colore, disparaît, fane, devient gris, s'y retient. La caresse sur ton épaule, une si minuscule douleur, se prolonge. Si seulement c'était pour souffrir, l'indifférence. Le soin serait-il une forme d'amour? Mais quand on guérit, et l'amitié, l'acmé de l'aimer?
J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à écrire le désir sexuel, amoureux, je dirais. Et pour moi, cœur et corps, enfin voilà, c'est un tout, hein, c'est d'un seul tenant, jamais... je pense que je n'ai pas fait le jeu des hommes à cet endroit, c'est-à-dire que je n'ai pas eu le sentiment d'avoir... je ne me suis pas posé la question, en tout cas, qu'il devait y avoir une séparation. Pour moi, c'est un tout. C'est plutôt du désir amoureux qu'il s'agit. J'étais plus à l'aise avec cette écriture-là parce qu'il y avait eu des regards ou des réflexions qui étaient très désobligeantes, très bêtes. Et ça a sali un peu tout ça, ça a pollué un peu tout ça. Toute cette force, cette joie qu'il y avait à écrire tout ça. Donc j'ai été un temps un peu en retrait. Aujourd'hui, je renoue avec cette force-là qui était en moi, avec cette joie, ce jaillissement, comme ça, d'écrire des scènes érotiques, là, le mot est juste, et des scènes amoureuses. Et je crois que c'est des petites plages de fantaisie libertine et où la vie vient pulser là. Et je crois que je suis juste, parce que ce n'est jamais du déballage ou une façon de choquer, de provoquer. C'est juste que j'éprouve beaucoup de plaisir à écrire ces scènes que je trouve très excitantes. Et j'espère que ça excite aussi les lecteurs et les lectrices. Voilà. Je ne veux pas qu'une femme qui écrive des choses érotiques ou qui ne se prive pas d'écrire sur le désir amoureux soit après cantonné dans cette poésie érotique. C'est ça le danger des femmes, il est toujours actuel. Un homme peut se permettre, par exemple, je sais pas moi, un Mandiargue qui écrit des choses très belles et très fortes, parfois très dures sur la sexualité, on retient pas forcément ça de lui. Aujourd'hui, on est capable de voir que les 6 cahiers de poésie de Mandiargue sont intéressants à plus d'un titre, et pas seulement parce qu'il y aurait de l'érotisme dedans. Et donc j'aimerais ça pour les femmes, j'aimerais ça pour moi par exemple, mais je pense que je suis en train de l'obtenir, parce que je crois que la valeur de ce que font les femmes outrepasse ça. Donc je pense que c'est en train d'arriver. Donc les femmes vont pouvoir peut-être se lâcher un peu plus. Je crois qu'il y a encore une petite crainte, de passer pour d'accord, je suis encore l'écrivain érotique de service. Je pense que c'est en train de bouger, ça. En tout cas, le regard des hommes sur mon écriture a été grosso modo extrêmement positif, franchement, et même très encourageant. Ils ont encouragé cette liberté qui était la mienne. Lorsque l'amant dit « Ma queue est à toi, je te la donne, queue et couille, suis-je dans la convoitise qu'il croit de sa part, est-ce vanité, reddition ? La crainte d'être violée unanime, la queue dissociée, intruse, nous longeons cette frontière. L'amour de l'amant n'est jamais une garantie suffisante. Notre amour, mais notre désir mouillé, notre affolement. Les deux oreillons du sexe, quand j'y pense, accolés, la langue onctueuse des ouvres, lécher si on aime ça est un acte hypnotique, comme si on aime ça sucer. Lire distrait la vigilance de la proie en elle. Elle n'est plus si attentive. La voici absorbée par quelque chose de plus impérieux que sa propre survie. Oublie la nuit, l'impressionnant silence tout à coup.
Les hommes ne sont pas habitués encore à lire des femmes qui écrivent sur le corps, sur le sexe notamment.
Peut-être. En tout cas, moi je me souviens la première lecture que j'ai faite, franchement, c'était à l'hôtel de Massa en 2000. Et j'ai lu les poèmes érectiles. Je savais qu'en faisant ça, voilà, c'est une petite bombe quand même. Et bon, voilà, et c'est vrai qu'il y avait plein de vieux messieurs, il y avait plein de... Voilà, tout le monde était là. Et c'était quand même, oui, c'était quand même jubilatoire, hein, que de lancer cette pierre dans la mare. Et malgré tout, c'était bien de le faire. Et je crois qu'il y a une femme dans l'assemblée après qui est venue me voir, qui m'a dit « Mais c'est bien ce que tu as fait, parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le viol, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur, je sais pas, sur des femmes, oui, qui sont en but à la violence des hommes ou à la laideur. Enfin, et moi, j'arrivais avec cette sexualité solaire. Ben oui, c'était bien, je trouve.
She could bind the world's winds in a single strand. She could find the world's words in a singing wind. She could lend a weird will to a mottled hand. She could wind a willed word from a muddled mind. She could wend the wild woods on a saddled hind. She could sound a wellspring with a rowan wand. She could bind the wolf's wounds in a swaddling band. She could bind a banned book in a silken skin.
Quelle est la situation des femmes poètes aux États-Unis, Marlene Acker?
Heureusement que la poète est un poète comme les autres, et Il y avait dans les années, surtout dans les années 70-80, un mouvement assez fort de poésie féministe engagée, comme il y avait presque au même moment un mouvement de poésie noire engagée. C'était des mouvements un peu frères et sœurs, et bien entendu que toutes les poètes féministes n'étaient pas de race blanche non plus. Et peut-être à cause de cela, maintenant, c'est presque plus nécessaire d'en parler. On parle beaucoup de l'histoire des femmes, de l'histoire des Noirs, de l'histoire des Arabo-Américains ou des Hispaniques en poésie, mais ce n'est plus nécessaire d'essayer de faire une place pour des poètes femmes en tant que femmes, parce que presque la moitié en sont. Je me suis demandé souvent pourquoi... quand il y avait, ça existe toujours, un fort mouvement féministe ici en France dans les années 70-80, il n'y avait pas plus d'implication, pas seulement de poètes, mais d'écrivaines, ce qui était certainement le cas dans les pays anglophones, mais en Italie également et en Espagne également. Je sais que certaines poètes femmes françaises n'ont pas voulu avoir des textes dans une anthologie de poètes femmes parce que je ne suis, entre guillemets, je ne suis qu'une poète femme, je suis un poète tout court. Mais si on a des textes dans une anthologie de poètes femmes, une anthologie des poètes sur la vie urbaine, une anthologie de poètes sur des thèmes écologiques, origine juive, origine maghrébin, truc machin chose, bien entendu, on n'est pas coincé, on est plutôt multiple.
C'est-à-dire que la situation est quand même relativement différente de la situation des femmes poètes en France ?
Il me semble. L'exemple qui saute aux yeux, c'est la première année que deux femmes vivantes de langue française sont entrées dans la série Poésie Gallimard, qui existe depuis 50 ans. On dit quand même, où est-on ? On ne trouvera pas une telle situation ni aux États-Unis ni en Angleterre, mais ni en Italie, ni en Allemagne, ni en Russie, ni au Liban. Donc on se demande ce qui se passe ou ce qui s'est passé. C'est une situation un peu ironique que la poésie elle-même est sujette à une telle ségrégation maintenant en France et les poètes femmes de langue française et françaises essayent quand même d'entrer dans ce tout petit pré. Et je souligne française parce que ce n'est pas du tout la situation au Canada francophone où c'est plutôt comme au Canada anglophone ou dans les pays anglophones où il y a autant de poètes femmes de langue française visibles dans la poésie canadienne de langue française que des hommes. Donc c'est une situation bien franco-française et pas de la langue française.
Il me semble que maintenant l'hostilité de la société, elle serait plutôt du côté de l'indifférence. Écrivez si vous voulez, faites ce qu'il vous plaît, voilà, mais ne dérangez personne. Surtout pas trop de bruit, hein, c'est pour toi tout ce qui est féministe, bon maintenant c'est un peu passé, mais il ne faudrait surtout pas trop soulever cette question parce que c'est bruyant. Et cette indifférence, voilà, elle apporte une sorte finalement de très très grande liberté, voilà, on peut tout dire comme on veut, toutes les formes, de toutes les manières. Mais en même temps, voilà, au bout d'un moment, c'est un petit peu... cette indifférence, elle est violente aussi finalement, elle est beaucoup plus violente qu'une hostilité marquée, nette, avec qui on peut dialoguer, discuter, voire se confronter. Avec la différence, on ne peut rien faire, c'est mou, voilà, c'est le soft power, hein, c'est mou, donc là il faut essayer d'essayer de voir qui est caché derrière ce nuage d'indifférence et comment le transformer en différent, justement le remettre en différence. Et alors, il faut lutter, effectivement. Moi, c'est vrai que je pense, en étant peut-être femme, je ne sais pas si c'est pour ça, mais je n'ai pas eu cette ambition de revendiquer, de prouver. Voilà, dès l'enfant, je pensais écrire, mais je ne me suis pas dit, je vais prouver que je vais écrire. Pour moi, ça n'allait pas de pair. Il me semblait, voilà, il suffisait de prendre un stylo, c'était très simple. Et après, évidemment, on ne peut pas rester enfermé non plus dans son tiroir, dans sa maison, dans son intériorité. Et là, il faut se confronter, voilà, se lutter et prendre cette place Et ça, c'est, là, c'est pas évident. On voit finalement cette différence, elle n'est pas si nette que ça. Hein, c'est aussi un refus. C'est pas tellement une indifférence paisible, impassible. Voilà, c'est une hostilité bon, qui est beaucoup plus larvée, beaucoup plus retenue, mais bah, comme notre société en général, il faut apprendre à faire avec aussi, à travailler pour pouvoir faire entendre sa voix en tant que voix féminine et voix tout court de la poésie.
La femme est maison et l'homme est dehors. Ouvre la porte. La nuit, plus rien ne peut me rassurer et je suis seule alors et maison. Être maison, participe du verbe maison, attribut d'aucun sujet mais épithète de toute vie. Pronom impersonnel, féminin, masculin, je, tu, elle, dans une même maison. Singulier, pluriel. Elle coud les mots entre eux pour qu'ils se lient. L'ayonne s'est effacée. Le corps est disloqué. Les membres tirent à gauche, à droite, éparpillés dans les jours et le temps fragmenté, pour qu'il n'y ait plus aucune possibilité d'accroche. Ne plus savoir où l'on est, dans quelle orientation l'on dort, de quel côté est la tête. On achète des torchons, car il en faut pour essuyer la vaisselle, mais comme les serviettes éponges, ils n'essuient pas quand ils sont neufs. On ne peut rien faire qu'attendre.
Qu'apportent-elles les femmes à la poésie française contemporaine, Camille Loivier ?
Ah, je pense qu'elles apportent beaucoup d'originalité, hein, beaucoup de sensibilité dans leur voix nouvelle. Hein. Chacune est, je trouve, à beaucoup, comme je sais pas, Marie Huot, Ariane Dreyfus, c'est des voix très, très personnelles, très justes dans leur foi de leurs mots, très exigeantes. Puis, ces femmes-là, en tout cas, ces poétesses-là, même si elles n'accepteraient pas que je dise ça, eh bien, elles ne sont pas non plus dans l'imitation de faire comme le grand poète au-dessus d'eux, hein, qui va peut-être leur ouvrir une porte. Et qui va non, elles sont dans leur propre écriture. Elles savent que c'est elle et la langue. Elles sont beaucoup moins, finalement, dans des influences. Je crois qu'elles arrivent à être beaucoup plus justes. Et puis, du coup, ça apporte une multiplicité, un épanouissement, toutes sortes de couleurs, nouvelles, finalement, à la poésie, qui commençait peut-être à ternir toute la génération précédente, des bonnes fois déjà à côté. Là, j'ai l'impression que c'est un peu tous les mêmes. Enfin, c'est mon impression. Ils se ressentent parce qu'il y a l'identité aussi qui est très forte dans l'art et dans la répétition du même. Et voilà, il faut écrire soi-même toujours la même chose, et il faut qu'on soit dans une lignée, et cette lignée est masculine, et donc finalement on a un sentiment de répétition quand même.
Je peux en parler, maintenant ça fait longtemps, ça fait 19 ans que mon père est mort. Maman est venue me trouver un petit peu avant l'enterrement de papa, parce que j'écrivais déjà, elle m'a dit « Valérie, est-ce que tu pourrais écrire un texte ?» pour les proches, pour les amis, pour la famille. Donc c'est comme ça que j'ai écrit à l'époque un texte qu'on peut qualifier de funèbre. Je dirais pas une oraison funèbre, hein, mais je suis pas bossuée, mais quelque chose qui me correspondait pas. Et quand tout ça était passé, puis que je suis retournée chez moi, à l'époque j'étais étudiante à Tours, et quand on est rentré avec mon mari, j'ai commencé à écrire par revoir pour rattraper ça, c'est-à-dire un livre qui corresponde plus à ce qu'était papa, à ce que j'étais, qu'à cette espèce d'oraison funèbre, justement. Voilà. Alors, j'utilise tous les registres de langue, hein, que ça aille de vocabulaire riche et précieux, des mots rares qu'on ne trouve plus, au vocabulaire le plus familier. Je me prive de rien dans la langue, de rien. Dire du moment que ça me permet de dire ce que je crois que je dois dire. Voilà, je vais vous lire en fait les premiers poèmes de Par revoir. Par revoir, c'est un... Traduit en allemand, c'est excellent, c'est Nicht wiedersehen. Donc c'est vraiment par revoir. C'est un au revoir nié parce qu'on ne se reverra pas, à moins d'être... croyant dans un au-delà. Et voilà. Donc je vais vous lire les premiers poèmes. Toi mourant, mens au téléphone, père noctera pas, voir papa. Le train foncé sous la pluie dure, pas mourir mon père, oh s'te plaît, tends-moi, me dépêche d'arriver. Pas mourant, rire, désespérir, père infinir, lever, courir. Main montre l'heure, sommes à Vierzon, dehors ça tombe des grêlons. Nous nous loupons, ça je l'ignore, passant Vierzon, que tu es mort en cet horaire. Pas mourir, s'te plaît, infinir, jusqu'au couloir blanc d'infirmière. Jusqu'à ton lit, comme la loco poursuit vite vers Lyon-Lapardieu. Jusqu'à ton front, c'est terminé. Tout le monde dans la petite chambre, rien oublié. Serment de main, toute bonne, civilisée. Toi, pas sonné, pas couronné. Moi, dans mes plus lourds souliers que ton cœur planté. Les lilas, là, les galets, c'est vrai, au fond des grands vases. Rien qu'une alouette de vivante pour s'en aller. Neige, les yeux rouges, ça leur fait mal. Dans la danse des flocons, main gourde, ça chauffe un peu. Qui va botter le derrière, visé dans le dos? C'était quand les vaches chantaient que les pies riaient. Le monsieur de la ville vient pour tout balayer. La neige se salit vite comme lieu commun, dit-il. Que les vaches chantaient. Mon père, son camion roule sur la terre. Le soleil chauffe ses métaux bien triés, empilés, le cuivre et l'alu, le zinc et l'étain. De là-haut, les pies n'arrêtent pas de saluer. La grue à chenilles creuse des ornières où l'eau de pluie se trouvera belle. L'herbe a des insectes verts qui chantent juste partout sur elle. Et elle danse.
Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse.
Être femme et poète aujourd'hui.
Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas.
Avec Marie-Étienne, Marilyn Hacker, Valérie Rousseau, Camille Loivier, Sophie Loiseau, et la complicité silencieuse d'Ariane Dreyfus. Merci au château de Versailles et à Milena Hélène. Prise de son, Olivier Leroux. Mixage, Guillaume Ledu. Documentaliste, Maria Contreras. Archivina, Annie Lozana. Attachée de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omélianenko. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Guillaume Baldi, pour Sur les Docs. Loïs Labbé ou Louandre à Salomé.
Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence. Épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux mettant psychose. Permettez à votre Juliette de ne point mûrir en minette, mais en colère.